Merci Seigneur de nous avoir donné la grâce de te louer. Au ciel, nous te louerons, nous ferons des farandoles et nous te louerons, nous te bénirons. Nous te rendons dans une joie éternelle, une joie qui ne s'éteindra pas, qui est ta propre joie. La joie de t'aimer, la joie d'être aimé de toi. La joie d'aimer la Vierge Marie, d'être aimé de la Vierge Marie et de tous les saints. Et nous serons tous saints au ciel. Si le Seigneur nous invite tous à désirer ce ciel et à rejeter ce qui nous empêche d'aller au ciel, c'est-à-dire le péché, le manque de foi, donne-nous, Seigneur, de désirer vraiment ce ciel, cette joie éternelle. Du livre de l'Exode au chapitre 3. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle et pourquoi le buisson ne se consume pas. » Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, » dit-il. Et Moïse répondit, « Me voici. » Le Seigneur dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et le Seigneur lui dit aussi, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Alors cette histoire de Moïse, elle est connue largement au-delà des frontières du judaïsme et du christianisme, puisqu'on en a tiré des films. Cette histoire de Moïse, c'est donc d'abord l'histoire d'un homme qui a été abandonné à sa naissance par sa maman, parce que sa maman ne voulait pas qu'il soit tué au pays d'Égypte où il était. Donc elle l'a fait adopter par une princesse égyptienne, à travers un subterfuge, en le laissant dans un panier d'osier pour que son fils ne meure pas. Elle a été obligée de l'abandonner pour que son fils survive. Donc Moïse, je dirais que c'est le fils d'une tragédie. C'est le fils d'une tragédie, d'un peuple persécuté. Et lui-même va vivre cette tragédie dans sa propre chair, puisque d'abord il sera prince d'Égypte, mais sachant qu'il n'est pas égyptien, il se sait hébreu parce qu'il a probablement une couleur de peau un peu différente des égyptiens, donc il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas égyptien, qu'il était hébreu. Et il aura le souci de voir son peuple persécuté par les égyptiens, et donc certainement il sera déchiré entre sa situation de prince et le fait de voir son peuple maltraité par les égyptiens. Et finalement, il va craquer, et un jour où il verra un Égyptien fouetter un Hébreu, il va tuer cet Égyptien, il va l'enterrer, mais Pharaon va apprendre cela et va chercher à le tuer. Et donc Moïse va devoir fuir l'Égypte, et le voilà réduit à garder un bétail près de son beau-père, parce qu'entre-temps il s'est marié, dans le désert. Donc de prince d'Égypte, il est devenu petit berger dans le désert. Donc Moïse pourrait se dire que sa vie, elle est plutôt allée du haut vers le bas, si j'ose dire. Et paradoxalement, c'est au cœur de sa pauvreté, au cœur de ce petit métier, au moment même où il est en train de l'exercer, eh bien que le Seigneur va faire appel à lui. Le Seigneur n'a pas fait appel à lui quand il était prince d'Égypte, parce que là, il n'aurait pas été capable d'entendre le Seigneur, certainement. Mais quand il a été humilié, réduit à rien, là le Seigneur va faire appel à lui parce qu'il est prêt à répondre à l'appel du Seigneur. Et donc le Seigneur se manifeste à lui à travers ce buisson mystérieux sur le mont Horeb qui brûle sans se consumer. Et certainement Moïse l'observe depuis un certain temps et puis ce buisson brûle et puis il brûle toujours, comme ça peut arriver dans le désert, un buisson qui s'enflamme avec la chaleur. Mais voilà, il continue de brûler, puis c'est peut-être une heure qu'il brûle, et il brûle toujours. Alors Moïse est très intrigué, il va voir, Et quand il s'approche du buisson pour un peu voir ce que c'est cette histoire, voilà que une voix se fait entendre du buisson. Moïse, Moïse. Alors remarquez que quand le Seigneur appelle, il n'est pas rare qu'il appelle en appelant deux fois le prénom. Moïse, Moïse. Dans la Bible, souvent, il appelle deux fois. Il répète deux fois le prénom. Alors, il y a différentes thèses sur ce sujet-là. Et on peut dire qu'il appelle tous les côtés de Moïse, le côté droit, le côté gauche. Ou peut-être qu'il faut qu'il appelle deux fois pour que Moïse entende. Enfin, il y a plein de possibilités pour justifier ce double appel. Mais le Seigneur appelle deux fois. Moïse, Moïse. Et Moïse, tout de suite, répond « Me voici ». C'est assez extraordinaire parce qu'il aurait pu être effrayé, s'enfuir à toutes jambes. Ben non, il répond « Me voici ». Donc ça signifie que dans ce désert, Moïse, qui pensait qu'il ne se passait rien dans son cœur, eh ben, il s'est passé beaucoup de choses. Quand il était en train de garder les moutons, le Seigneur a travaillé son cœur dans le désert. Parce que le désert, c'est le lieu où le Seigneur travaille notre cœur. Donc quand on a l'impression qu'on est dans le désert dans notre vie, c'est peut-être un bon signe que le Seigneur est en train de travailler notre cœur. Moïse répond tout de suite, « Me voici, il est immédiatement disponible. » C'est assez extraordinaire, cette disponibilité de Moïse à cette voix qu'il appelle, dont il ne sait même pas, qui l'appelle. Et le Seigneur lui dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Le Seigneur se manifeste à lui comme étant saint. Donc c'est la transcendance du Seigneur qui se manifeste à lui. Nous, nous avons la chance de connaître Jésus dans son humanité. Il ne faut jamais oublier que même dans son humanité, Jésus est Dieu, infiniment grand, infiniment puissant, infiniment glorieux. Et donc, quand nous allons auprès du Seigneur, quand nous entrons dans une église, eh bien, il faut toujours penser que nous sommes dans la maison de Dieu. Et donc, avoir ce sens de la crainte, pas la peur, mais la crainte révérentielle, la crainte de Dieu, la crainte, c'est-à-dire l'adoration de Dieu dans notre cœur. Dieu n'est pas rien, n'est pas petit, il est immense, il est infini. Nous ne pouvons même pas imaginer son infinité, puisque l'infinité est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et donc, en demandant à Moïse d'enlever ses sandales, comme font encore aujourd'hui les musulmans dans les mosquées, ils enlèvent leurs sandales, c'est un signe qui manifeste ce respect vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire que le pied, c'est le lieu de la puissance. Quand j'enlève mes sandales, ben voilà, je suis affaibli. Je me fais pauvre devant le Seigneur. Donc, retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et Dieu se révèle maintenant à lui en lui disant qui il est. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, ça veut dire que le Dieu qui se révèle à Moïse, c'est le Dieu de ses ancêtres. C'est le Dieu de sa famille, si j'ose dire. Abraham, Isaac et Jacob sont ses ancêtres. Et donc, c'est un Dieu familier, un Dieu qui a déjà rencontré ce peuple, qui a déjà une histoire avec ce peuple, avec Abraham, Isaac et Jacob. Et pourtant, quand Moïse rencontre ce Dieu-là, il est probablement complètement surpris parce que il a entendu parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il ne l'avait jamais rencontré dans sa vie. Pour lui, c'était une tradition qu'on se racontait de père en fils. Donc ce Dieu, il ne le connaissait pas. Il voyait les Égyptiens qui adoraient leur Dieu, et lui, par sa famille, par sa tradition, il connaissait ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob par tradition. Et voilà que Dieu se manifeste à lui directement. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi avec nous. Beaucoup d'entre nous le connaissent par tradition, par la famille, par des livres, par je ne sais pas quoi. Eh bien, à chacun d'entre nous, Dieu veut se manifester directement. Dès que nous ayons chacun une expérience vivante de Dieu, comme Moïse, que nous puissions dire « Dieu, moi, je l'ai rencontré dans ma vie ». Ce n'est pas juste « j'ai entendu dire que Dieu existait » ou « mes parents m'ont dit que Dieu existait et qu'il fallait prier ». Non, je l'ai rencontré moi-même. C'est ça ce que Dieu nous invite à vivre et à le rencontrer à travers un buisson ardent qui ne se consume pas, qui symbolise cet amour de Dieu qui brûle sans se consumer. Un amour infini, un amour qui veut aussi brûler notre cœur sans nous consumer, sans nous détruire. Un amour qui veut nous transformer, nous diviniser. Et c'est cet amour brûlant que nous sommes tous appelés à rencontrer en Jésus-Christ, l'amour du Père. Alors quand Moïse se trouve en présence du Dieu de ses pères, d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, il se voile la face. Parce qu'il se voile la face, parce qu'il sait qu'il est indigne d'être devant Dieu, et même il a peur de mourir. Parce que pour les Hébreux, voir Dieu, eh bien, on risquait de mourir. Donc il se voile la face. Mais nous, nous n'avons plus à nous voiler la face, puisque Jésus s'est manifesté à nous. Jésus s'est manifesté à nous. De la même manière, dans l'Ancien Testament, il était interdit de faire une représentation de Dieu. Dans les 10 commandements, il est interdit de faire une représentation de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne s'est jamais manifesté à travers une représentation. Même ce buisson qui brûle, ce n'est pas Dieu. Il est dit que c'est l'ange du Seigneur qui apparaît dans ce buisson à Moïse. Ce n'est pas Dieu, ce buisson, c'est un buisson qui brûle. Donc, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas faire de représentation de Dieu. Mais voilà que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Il s'est rendu visible. Et donc, cette interdiction de représenter Dieu dans l'Ancien Testament, pour ne pas faire de Dieu une idole, comme les dieux des Égyptiens, avec des animaux qui représentent des dieux. D'ailleurs, les Hébreux sont eux-mêmes tentés de représenter Dieu par un animal, le veau d'or. Eh bien, depuis que le Christ est venu, Dieu s'est rendu visible. Donc maintenant, on peut le représenter, mais attention, on peut représenter Dieu en tant qu'il s'est rendu visible en Jésus-Christ. On peut le présenter à travers l'Esprit-Saint qui s'est rendu visible symboliquement dans une colombe. J'explique cela parce que dans notre assemblée, il y a des frères et sœurs protestants qui se demandent pourquoi nous, catholiques, nous avons une représentation de Dieu. Oui, eh bien, depuis le concile de Nicée, au 8e siècle, Nicée II, on peut représenter Dieu, mais uniquement en tant qu'il s'est rendu visible. Dieu, dans son invisibilité, est irreprésentable. Ça n'a pas changé. Voilà. Alors, frères et sœurs, nous sommes invités ce soir vraiment à dire au Seigneur, surtout si on n'a jamais fait cette rencontre du Seigneur, « Seigneur, manifeste-toi, moi. Je désire voir ta face, comme on dit dans les psaumes. Je désire sentir ton amour dans mon cœur. » C'est encore plus important de rencontrer Jésus que d'être guéri. Parce que si on rencontre Jésus, notre vie est transformée, comme l'a dit tout à l'heure Thibault. Quand Zachée est venu à accueillir Jésus dans sa maison, eh bien, la vie de Zachée était transformée. Donc, demandons au Seigneur des guérisons, bien sûr. Il y aura des guérisons ce soir. Mais demandons surtout au Seigneur de pouvoir le rencontrer personnellement, de pouvoir avoir une expérience vivante du Seigneur. Ainsi, nous pourrons témoigner auprès des autres que nous avons rencontré Jésus, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Voilà, maintenant je vais vous donner quelques témoignages. Je vais commencer par lire ce témoignage d'Amandine et de Hugues, auquel elle a donné ce titre « Le miracle n'arrive pas toujours comme on l'attend ». Alors, Amandine, elle est dans notre assemblée, elle est avec nous, je l'ai vue, mais elle n'a pas désiré être à côté de moi parce que ce témoignage suscite trop d'émotions dans son cœur, vous allez comprendre pourquoi en l'écoutant, donc elle ne voulait pas pleurer devant vous. Le 2 mai 2017, nous étions en haut d'un lieu saint, lieu d'apparition de la Vierge Marie. Nous souhaitions remercier le ciel de nous avoir accordé la grâce de devenir parents. Après un long et difficile parcours, nous étions depuis peu les heureux parents d'un petit Stanislas, alors âgé à cette date de 9 mois. L'être humain n'étant jamais rassasié, nous avons alors également demandé la grâce de devenir parents une seconde fois. Quelle surprise 3 mois après, quand le 15 août 2017, jour de l'Assomption, au moment de la lecture de l'Évangile, je sens mon ventre bouger. En sortant de la messe, je dis alors à mon mari, « Mon chéri, je pense que je suis enceinte. » Le verdict médical tombe, je suis effectivement enceinte. Nous ne nous y attendions pas aussi rapidement, mais notre joie nous projette très rapidement à des organisations logistiques. Malheureusement, une échographie à 3 mois révèle que la grossesse n'est pas viable puisque notre bébé est atteint de trisomie 13. Le corps médical nous conduit automatiquement sur la voie de l'avortement. En effet, cette grossesse dite à risque peut être dangereuse pour moi. Beaucoup de questions, de projections et de conflits animent notre vie pendant des mois. L'univers médical est en totale contradiction avec mes valeurs spirituelles, mais notre petite Gabrielle tient bon, c'est le nom qu'ils lui donneront après, elle continue de grandir dans mon ventre malgré les annonces perpétuelles de fausses couches. En dépit de toutes ces malformations, Gabrielle prend du poids, évolue et grandit, une vraie petite lionne. Nous nous apportons de la force et surtout beaucoup d'amour mutuel. Les diagnostics et risques me dépassent. Je suis convaincu que le Seigneur nous viendra en aide et ne peut pas nous laisser notre petite Gabrielle ainsi. Je prie, contacte des prêtres, des communautés que je connais. Je demande toutes les prières possibles. Je prie dans les églises. J'assiste à la prière des malades du jeudi soir à Saint-Nicolas-des-Champs. J'attends un signe de ciel et ce miracle tant espéré n'arrive pas. Les diagnostics sont de plus en plus pessimistes et douloureux à entendre. Gabrielle est née à 8 mois et demi, le 27 avril 2018. Elle devait être toute petite et peser pas plus de 900 grammes, et pourtant à sa naissance, Gabrielle mesure 46 cm et pèse 3,2 kg. Aussitôt baptisée, nous la revêtons de sa robe de baptême et nous la contemplons remplie d'amour, mais aussi avec quelques doutes sur notre avenir. Nous avons pu tenir Gabrielle dans nos bras pendant 10 heures, puisque Gabrielle nous a exactement quittés à 19 heures. À ce même moment, mon mari, qui n'a pas reçu le même héritage de la foi que moi par sa famille, et qui donc avait plus de mal que moi à vivre cette épreuve dans la foi, a eu une apparition. Il a vu la Sainte Vierge Marie vêtue d'un grand manteau bleu rempli de points de lumière. En une fraction de seconde, une lumière est sortie du corps de notre petite Gabrielle et a intégré le manteau de la Vierge Marie déjà étoilée. Et l'apparition a disparu. Le miracle tant attendu venait de se produire, mais pas comme nous l'attendions. Hugues, mon mari, sut ainsi que Gabrielle venait de nous quitter. Pour ma part, j'en ai eu au même moment l'intuition intérieure. Mon instinct de maman, ce moment-là, m'a fait dire tout haut, « Pars en paix, ma chérie ». Les médecins qui étaient autour d'elle et de nous nous confirmèrent rapidement son décès. Nous avons procédé à une messe d'anciellement. Anciellement, ça veut dire que, de dire enterrement, anciellement, elle est partie au ciel. Le 2 mai 2018, nous n'avons même pas choisi la date et pourtant c'était exactement un an, jour pour jour, après notre demande d'intercession pour avoir un enfant. La boucle était bouclée. Gabrielle aujourd'hui reste dans notre cœur et très présente dans notre famille malgré son absence physique. Les diagnostics médicaux sont très pessimistes à l'idée que nous puissions devenir une nouvelle fois parents. Toutefois, nous gardons foi en la Providence, en la Sainte Trinité, pour que Stanislas puisse avoir dans son quotidien un petit frère ou une petite sœur. Tenons à remercier très chaleureusement la communauté de Saint-Nicolas-des-Champs pour ses prières, son accompagnement dans cette épreuve. Nous avons une pensée particulière pour le père Aubanel, c'est le curé de cette paroisse, qui fut pour moi un soutien des plus réconfortants. Et elle termine à notre petite Gabrielle. Voilà, Hugues et Amandine. Ce très beau témoignage que Amandine nous partage. Le Seigneur voulait récupérer Gabrielle, mais en même temps, il lui a montré que Gabrielle est une petite étoile dans le manteau de la Vierge Marie, ce qui signifie qu'elle est partie directement au ciel. Et ce n'est pas une mince consolation que d'avoir eu cette apparition pour Hugues, son mari. Merci Seigneur. Alors, d'autres témoignages. Thérèse, elle est infirmière. Elle souffrait intensément d'endométriose. C'était très douloureux. Elle est venue à la prière des malades et une parole de connaissance a annoncé la guérison d'une femme qui souffrait d'endométriose. Une semaine plus tard, elle passe un examen qui montre que tout est redevenu normal. Merci Seigneur pour cette guérison. Ravi est venu nous témoigner des grâces qu'il a reçues à la prière des malades. Il y a 2 ans, elle était venue prier pour sa femme qui devait recevoir un pacemaker pour son cœur. Suite à cette prière, finalement, sa femme n'a pas eu besoin de pacemaker, mais d'un simple traitement pour son cœur. Il rend grâce aussi au Seigneur car il avait prié pour lui-même. Il a été opéré d'une opération du larynx. Il n'a pas eu besoin de rééducation de la voix après cette opération. Il a aussi été guéri lors d'un jeudi d'une douleur aiguë qu'il avait à l'épaule droite depuis longtemps. Suite à une parole de connaissance qui annonçait la guérison d'une épaule droite, sa douleur s'est paradoxalement intensifiée. Mais en sortant de l'église, il s'est aperçu qu'il ne souffrait plus. Béatrice a prié à la prière des malades pour sa nièce qui n'avait quasiment plus de relation avec son père depuis 5 ans suite à une querelle et qui en souffrait. Il y a une parole de connaissance à propos d'une jeune fille qui allait renouer avec son père. Suite à cette parole, Béatrice a constaté que sa nièce et son père avaient pu se réconcilier et reconstruire de bonnes relations. Et le dernier témoignage que je donnerai ce soir, Kadiatou a eu un accident de voiture en Afrique. Elle a été rapatriée en France, mais les opérations qu'on lui a faites pour guérir son bras et son épaule ont engendré diverses affections, particulièrement des infections nosocomiales. Pendant 2 ans, elle a souffert de ces infections. Elle est venue à la prière du malade. Parole de connaissance a annoncé que le Seigneur allait guérir une personne qui souffrait d'infections récurrentes et que personne n'arrivait à guérir. Se trouve que quelques jours après, Kadiatou devait être à nouveau opéré. En tout cas, depuis cette parole jusqu'à ce jour aujourd'hui, enfin jusqu'à ce qu'elle ait donné son témoignage, il n'y a eu aucune affection. Du coup, Kadiatou, qui était musulmane, a demandé le baptême et elle est devenue chrétienne. Merci Seigneur pour cette grâce de guérison et de conversion. Voilà, quand nous demandons au Seigneur que ta volonté soit faite, eh bien, nous sommes comme les parents d'Amandine, nous pouvons accepter que le Seigneur reprenne chez lui un enfant, puisque nous savons que cet enfant va au ciel et qu'il sera comblé de la joie de Dieu. Mais nous pouvons aussi demander au Seigneur des guérisons. Donc quand nous prions, eh bien, nous disons au Seigneur que ta volonté soit faite, Seigneur. Si tu veux me guérir, eh bien, béni sois-tu. Si tu veux autre chose, Seigneur, béni sois-tu aussi. Nous allons maintenant accueillir Jésus au milieu de nous dans le Saint-Sacrement. C'est Jésus lui-même qui va venir au milieu de nous pour venir nous donner l'amour du Père.